Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Mais que sait-on de la cuisine au feu? Alors que la saison des barbecues approche et que dans le même temps on parle de plus en plus de la nécessité pour des milliards d'individus de promouvoir des modes de cuisson propres, alternatifs à la combustion, nous avons invité ce midi deux jeunes chefs talentueux dont le restaurant porte le même nom pour une même passion, La Flamme. Le premier est au grill d'un restaurant bistronomique à Paris. Le second propose un menu gastronomique inspiré de la forêt à Èvre-sur-Indre, en Touraine. Les deux font une cuisine vive, sauvage, brute, primitive. Leur restaurant s'appelle Ardent, un nom qui sied bien à leur cuisine tout feu tout flamme. Petit cours de cuisson incandescente en compagnie de Charles Brevard. Bonjour.
Bonjour.
Chef du restaurant bistronomique Ardent Paris, c'est rue Richer, dans le 9e arrondissement. Et Thomas Bénaud, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez fait le voyage depuis Saint-Pierre-des-Corps, Tours, en voiture, pour venir à Paris. Vous êtes le chef du restaurant gastronomique Ardent, au domaine Loire Valley Lodge, en Touraine donc. Première question à tous les deux, comment vous est venue cette envie de cuisiner quasi essentiellement au feu de bois? Est-ce que c'est pour trouver un côté ancestral, primitif à la cuisine? Thomas Bénaud.
Ouais, il y a ça, il y a le côté ancestral, primitif, il y a aussi le goût qui est très important. Le goût que ça va donner, l'émotion que ça va déclencher, les rappels de souvenirs du barbecue, du feu de cheminée, du... On joue beaucoup sur le fumé, ça amène beaucoup de souvenirs.
Des souvenirs comment?
Bah, des souvenirs de cheminée, moi, personnellement, c'est les souvenirs de cheminée à la maison quand j'étais petit.
C'est comme une madeleine, quoi, la cheminée.
Ouais, c'est un peu
le fumé.
Ouais. Et puis des fois, on va pousser en caramélisation, ce qui va vraiment donner un goût très marqué. Et qui peut déclencher des choses derrière en émotion.
Donc, goût et émotion, pour vous, c'est comment, Charles Brevard?
Il y a un côté fascinant, oui, qui rassemble la cuisine, la façon dont la cuisine est faite autour du grill, c'est quelque chose qui est marquant, effectivement.
Rassembleur, vous dites. Ouais. Convivial.
Tout à fait.
C'est tous ces mots que vous utilisez. Et quelles connaissances cela suppose-t-il, Thomas Bénaud?
J'sais pas si
c'est très technique.
C'est, pour moi, c'est pas technique ni des connaissances. C'est plus, faut sentir la flamme, je pense que.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a pas vraiment de science, en tout cas, ou pas encore. C'est quelque chose de
c'est très. C'est compliqué à jauger, oui.
C'était très ancestral et à la fois, il y a pas d'écrit, il y a pas de savoir-faire. Donc, c'est vraiment à la sensation, à la sensibilité, et ça, c'est intéressant, ouais.
C'est-à-dire pour que ce soit bien cuit, mais que ce soit pas brûlé, tout simplement. En même temps, de temps en temps, c'est brûlé.
Ça dépend ce qu'on cherche, mais selon par exemple l'épaisseur d'une viande ou quoi que ce soit, on va essayer d'atténuer le feu, d'avoir une belle braise ou de surélever un petit peu l'étage de cuisson. C'est vivant, c'est du ressenti.
Mais quand vous dites, Thomas Bénaud, sentir la flamme, ça veut dire quoi?
Il faut l'avoir en nous, quoi.
Ah ouais, mais d'accord,
faut la sentir,
c'est symbolique.
Faut la comprendre, faut... Ouais, faut réussir à jauger à l'instinct, quoi, et jouer avec des étages si on a des étages, jouer avec la braise, la décaler si on peut. C'est vivant, quoi.
C'est une question d'équilibre.
Ouais, c'est un petit peu
d'harmonie.
D'harmonie, d'équilibre, de sensation. Faut maîtriser la température, savoir ce que.
Bah ça, c'est scientifique quand même, maîtriser la température.
Oui, c'est scientifique, mais je sais pas que ça ne l'est pas. C'est juste qu'il y a pas de.
Il y a pas d'écrit. Il y a pas sur voilà, lesquels vous pouvez vous
appuyer. Il y a appuyer. Pas de consensus.
C'est difficile à mesurer.
Il y a pas eu un chef cuisinier qui a écrit une bible de la cuisine au feu de bois. C'est quelque chose qui.
Il y a quand même le grand précis des cuissons au poil, hein, qui est quand même un livre référence de Stéphane Lagorce, de la chipolata au caramel mou, dans lequel on peut apprendre un certain nombre de choses, mais c'est pas que sur la cuisson au feu.
C'est pas que ça. Et la cuisson au feu, c'est une multitude de choses. Le feu, il se présente de plein de manières différentes entre le moment où on va l'allumer et le moment où il va s'éteindre. Donc, ça va être des chaleurs qui vont être complètement différentes et qu'on va utiliser de façon différente aussi.
Est-ce que c'est amusant aussi? Je pense à votre cuisine, Thomas Bénaud, parce que vous jouez beaucoup sur le chaud-froid, sur le cru-cuit, par exemple, avec ces carottes en trois façons, sorbet, brûlé et râpé. Donc, est-ce que c'est une façon aussi de vous amuser avec différentes techniques qui vont donner des goûts différents ensuite en bouche?
Oui, tout à fait. C'est un outil supplémentaire avec lequel on peut jouer. Il y a plein de possibilités avec le feu. Comme disait Shirley, de l'allumage où on a une flamme qui est vive jusqu'à la braise qui s'atténue, qui est puissante, mais qui est tempérée, et le moment où ça s'éteint. Il y a la fumée aussi qu'on peut utiliser. On peut suspendre des choses au-dessus, les laisser fumer longtemps. C'est presque illimité, enfin, comme la cuisine en général.
On peut tout faire, Charles Brevard, on peut tout faire. Parce qu'on a l'idée que la cuisine au feu, c'est surtout pour la viande ou alors les pommes de terre sur les braises. Mais est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce que vous, vous faites tout?
On peut faire énormément de choses, on peut pas tout faire. J'ai jamais réussi à faire des spaghettis au feu de bois.
Ok.
Pas encore.
Mais Thomas non plus.
On pourrait essayer, mais c'est pas optimal, quoi.
Mais on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Hein. On n'est pas du tout limité avec la viande. Bien au contraire, hein. Y a vraiment des choses qui s'y prêtent, même peut-être plus que la viande, j'ai envie de dire.
Par exemple, les carottes, j'y reviens, parce que vous n'avez pas développé la carotte brûlée. C'est quoi la carotte brûlée?
Ouais, par exemple, c'est une carotte qu'on vient confire dans l'huile en premier lieu, et après on va la saisir à la flamme très vivement, très puissamment, pour la brûler vraiment d'une face et avoir cette amertume qui vient révéler le Douglas qui l'accompagne dans l'assiette.
Ça apporte un goût amer qu'elle n'aurait pas sinon.
Une légère amertume, bien sûr, le brûler a un goût amer, mais on vient le faire vraiment sur une fine face, pas sur l'entièreté, pour avoir quelque chose de bon. Parce que si on va trop brûler, souvent, c'est pas bon.
Oui, l'idée, c'est quand même que ça reste bon.
Même si on arrive à équilibrer, on pourrait brûler des choses complètement et faire des huiles infusées, quelque chose comme ça. Mais
comment on travaille précisément? Comment on travaille un goût barbecue, un goût fumé? Je me tourne plutôt vers Charlet qui travaille sur le grill beaucoup.
Alors oui, moi, je travaille énormément sur le grill. Après, le grill, c'est une partie de l'instrument, le barbecue, je suis pas obligé.
C'est un ustensile.
Sur le grill. Le grill, c'est vraiment la grille qu'on va poser au-dessus des braises. Mmh. Mais je travaille pas que dessus. Je peux travailler directement sur les braises, je peux travailler en suspension. Mais le grill, je l'utilise effectivement beaucoup. C'était quoi la question?
C'était comment on obtient un goût barbecue?
Le goût barbecue, en fait, le goût barbecue, ça va être l'essence de ce qu'on va brûler. Alors, on utilise beaucoup le charbon parce que c'est économique et c'est une chaleur qui est bien redistribuée, mais on peut, sur le barbecue, je vais utiliser pas mal d'autres essences, des herbes séchées, ça c'est très très rigolo à faire. Qu'est-ce que j'ai de rigolo là-dessus? On a utilisé beaucoup les sapins de Noël au mois de janvier, hein, les fins de sapins de Noël pour faire des fumaisons, pour amener du goût au feu. Et là, en ce moment, je fais les artichauts. Là, on arrive sur la saison des artichauts et je récupère le foin des artichauts que je fais sécher pour ramener ça dans le feu. Il fermente même un petit peu en séchant et ça ramène un goût qui ressemble un peu à la tonka au niveau du parfum. Donc le goût du feu, il vient de ce qu'on met dedans, quoi. Ça peut être le charbon, mais plein d'autres choses.
Vous faites des expériences, des tentatives, vous goûtez, vous testez avec différentes techniques liées au feu. Je pense aussi à un plat que vous faites, Thomas Besnaud, qui est le tataki de thon cuit au binchotan. Alors le binchotan, c'est typiquement un type de charbon japonais, ouais. Je pars sous votre contrôle. Un type de charbon japonais qui a un goût barbecue, précisément.
Ouais, qui est plus subtil quand même, je dirais. Mais qui laisse un goût marquant, type barbecue. Et c'est encore une autre flamme, enfin c'est même, il y a pas de flamme avec le binchotan, c'est vraiment de la braise qui va aller tout en douceur et c'est un autre process à gérer encore. Mais ça amène un goût super, ouais. Puis après nous on vient lustrer le thon avec une huile à la ronce. Donc ça va très bien ensemble et ça amène quelque chose d'intéressant à la fin.
Et vous arrondissez ou vous adoucissez tout ça avec une mayonnaise à la betterave?
Ouais, une mayonnaise avec un jus de betterave réduit, émulsionné à l'huile de ronce encore, qu'on fait. Et ouais.
Bon alors comme il y a eu beaucoup déjà depuis 10 minutes que nous parlons de termes utilisés un peu différents, je pense que c'est nécessaire pour nos auditeurs et nos auditrices d'entrer un tout petit peu plus dans un cours de cuisson au feu. On va y entrer par un reportage qui a été fait à Cucugnan chez le paysan boulanger Roland Feuillas pour l'émission On va déguster sur France Inter en 2021.
Alors là je vais charger le foyer avec le bois.
Alors là ici on a du hêtre, parfois un petit peu de charme. Parce qu'il faut du bois à flamme, on ne pourrait pas faire avec du chêne par exemple, qui lui est un bois à braise.
Donc là je laisse prendre un petit peu le feu, et dès qu'il s'est un petit peu propagé, je vais là-bas ouvrir le houra, ce qu'on appelle le houra. Il y a une petite tirette à côté de la porte du four, et là ça va créer un grand appel d'air. Et c'est là que les flammes vont commencer à se développer beaucoup plus vite et à chauffer la surface de cuisson.
Petite four à accumulation. On a des moments où l'on chauffe, puis on a des moments où les chaleurs s'équilibrent, il n'y a plus de flammes, il n'y a plus rien. Et puis après, on rentre dans les phases de cuisson qui vont être successives et qui vont être planifiées en fonction de la thermodynamique de descente du four qui va être en descente continue, qui va redescendre de 330, 350 degrés, température à laquelle on l'a monté, jusqu'à ce que l'on voit ce matin, où la chaleur résiduelle, là, n'est plus que de 130 à 160 degrés.
Et là, je vais mettre ma pizza. On referme.
Est-ce que c'est des mots, des techniques que vous avez reconnus tous les deux? Par exemple, la différence entre le bois à flamme et le bois à braise, Thomas Benoît.
Ouais, bien
par
sûr.
Exemple, hein, mais
oui, et même quand il parle du vent qui va raviver les flammes, enfin c'est un peu le quotidien, ou le four le lendemain qui est encore chaud, où on a pu mettre une cuisson toute la nuit parce qu'il y a une inertie, on a un four à bois avec des pierres, et quand on lance un service dedans, parce qu'on a un restaurant à l'extérieur en ce moment par exemple où le four tourne à fond, et ben la nuit on en profite, on met des cuissons longues et ça vient fumer tout doucement, on récupère cette inertie qu'on réutilise en fait.
Et vous, Charles Brevard, vous êtes reconnu dans ces mots et ces techniques?
Ouais, aussi, c'est très pointu et précis. Ouais, alors moi, j'ai pas de four, c'est vraiment un grill ouvert avec lequel on travaille au restaurant. Mais on s'y retrouve, ouais, on s'y retrouve.
Quelle est la différence, par exemple? Moi, on entend des mots, hein, braise, cendre, flamme, flamber, fumer, griller, brûler, saisir, braiser, dorer, mijoter, à l'étouffer. C'est des mots qui sont très différents dans ce que ça dit de la façon de cuisiner ou de la façon de cuire. Un exemple. Quelle est la différence entre le fumage et la fumaison? Thomas Benoît, s'il y en a une.
Le fumage et la fumaison. Je pense que c'est la façon d'utiliser le mot, ça se place pas au même moment. On va fumer un saumon et c'est la fumaison qui lui donne un goût, si vous voulez.
D'accord. Et pourquoi vous choisissez tel ou tel mode de cuisson, par exemple, en fonction de ce que vous voulez obtenir? Je prends encore un exemple, Thomas Benoît, vous faites de la purée cuite au feu de bois. Pourquoi vous choisissez, pour la purée, de la faire au feu de bois? Exemple.
Pour amener une longueur dans la purée de betterave dont vous parlez, pour amener une longueur derrière qui va... On va avoir la douceur de la betterave, un petit peu de sucre, et à la fin, paf, on va prendre un kick de feu de bois qui va rappeler le binchlotan sur le thon. Voilà, c'est venu instinctivement, mais c'est ça l'esprit de la purée.
Et vous, Charles Brevard, à quel moment vous vous dites je vais choisir tel ou tel mode, même de cuisson au feu, je vais choisir donc de brûler, de saisir, de braiser, de dorer, de griller, parce que je vais obtenir tel ou tel goût.
Selon les caractéristiques du produit, j'ai appris à faire la cuisine sur un fourneau classique à gaz, j'ai appris chaque produit avait ses caractéristiques et on devait le faire comme ci, comme ça, parce que il risque de sécher ou risque de pas assez cuire. Et l'idée, c'est d'un peu, avoir en tête les caractéristiques de chacun des produits, que ce soit, la betterave ou de tout autre produit, et de l'adapter à une cuisson au feu de bois et du coup, choisir plutôt une cuisson longue ou une cuisson très rapide, une cuisson à l'étouffée, une cuisson au contraire avec beaucoup de fluidité. Donc voilà.
C'est aussi un jeu de texture dans ce que j'entends de ce que vous dites. Quand cuisson longue ou cuisson rapide, ça va donner des textures différentes, croustillantes, j'imagine, ou plutôt molles si on veut quelque chose de cru à l'intérieur et de saisi à l'extérieur. Je parle vraiment sous votre contrôle, hein, Thomas Benoît.
Ouais, bien sûr. Enfin, ça dépend de la façon de fonctionner de chacun. Moi, je sais où je veux aller avant de savoir comment j'y vais. C'est après avoir mon idée finale. Je construis la façon d'y aller derrière. Après, chacun fonctionne comme il veut, mais c'est vrai qu'une cuisson longue, par exemple, sur une viande, on va avoir quelque chose de tendre, d'effiloché, et si on fait une cuisson vive, on peut avoir quelque chose de cru, mais de bien saisi à l'extérieur.
T'as pas changé le résultat, absolument, tout est possible. Vous disiez, Charles Brevard, tout à l'heure, que vous utilisez donc le charbon, c'est plus économique, mais ça n'est pas plus écologique et ça n'est pas plus propice à la santé. On a quand même l'idée que brûler, griller, je ne vais pas reprendre tous les termes, mais en tous les cas que ça brûle, que ce soit la flamme, que ce soit saisi, et ben ça brûle aussi tous les bienfaits des aliments. De les cuire au-delà de 300 degrés, il reste plus rien des bienfaits des aliments, et donc que c'est pas bon pour la santé. Je vais venir aussi à l'écologie. D'ailleurs, on sait que depuis peu de temps que la cuisson d'aliments par combustion, c'est aussi la deuxième cause de mort prématurée, surtout en Afrique subsaharienne, qu'elle est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a même un sommet qui s'est tenu à Paris le 14 mai de cette année 2024 pour promouvoir des modes de cuisson propres, des cuisinières ou des mini-poêles fermés qui permettent d'utiliser moins de combustible, de retenir les fumées et des systèmes qui fonctionnent aux énergies vertes comme l'électricité, le biogaz, le bioéthanol, les granulés, etc. Et là, vous arrivez, jeune chef, vous êtes jeunes tous les deux. Et puis, vous faites de la cuisine au feu. Donc, est-ce que vous êtes sensible à ces arguments à la fois écologiques et de santé? Là, on parle de vos restaurants qui sont des restaurants gastronomiques, mais est-ce que ces arguments-là aussi sont sensibles à vos oreilles? Vous vous sentez concerné? Et comment éviter les questions qui se posent déjà à la planète, mais aussi à la santé? Donc, en gros, comment on fait pour faire une bonne alimentation sans brûler tous les bienfaits des aliments? Thomas, code question.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la carotte. C'est pas brûlé complètement, sinon c'est immangeable. Mais on va chercher vraiment juste une caramélisation sur les arêtes de ces carottes qu'on vient confire. Parce qu'on la retaille. Donc on a une arête sur la partie intérieure de la carotte qui est coupée en deux. C'est ça qu'on va venir brûler. Et le reste de la carotte va être vraiment confite tout doucement. Donc on va chercher une petite note en plus, comme un grain de sel qu'on rajoute, sauf que c'est le grain de sel qui a le goût de feu de bois. Et on travaille aussi beaucoup au feu de bois. Nous, on a beaucoup de bois en forêt, forcément.
Mais je rappelle que vous êtes à l'orée d'une forêt.
On est au milieu de 300 hectares de forêt.
C'est ça.
Donc, non, et puis bien sûr, oui. Mais c'est là que le cuisinier a sa maîtrise. On ne va pas dans le brûlé excessif qui va être nocif et pas bon. Je pense que c'est pareil pour Charlet.
Charlet Brevard.
Oui, c'est ça. On va chercher vraiment la cuisine plaisir avec du goût et chercher ce que le bois peut apporter dans cet état d'esprit.
Mais comment vous faites pour éviter que ça brûle?
Pour éviter que ça brûle, il faut être devant, il faut surveiller, il faut sentir, il faut écouter, il faut regarder et maîtriser. Après, pour revenir aux soucis nutritifs, moi j'ai pas la capacité de dire si ce que je fais est top de façon nutritive. Tout ce que je peux dire, c'est que moi j'essaie de faire que ce soit top au niveau plaisir. Et c'est ce que nos clients recherchent. On n'a pas une cuisine du quotidien. On a une cuisine vraiment qui va chercher l'occasion, l'événement, et pour justement sortir, on doit sortir nos clients du quotidien et leur faire passer un bon moment.
À un moment donné, on entendait dans les coursives Odette, le nom de ma maman. Odette fait de la tarte. Odette fait de la tarte. C'était toutes les autres mères de famille qui voyant un espèce de fumée noire qui sortait de notre cuisine, savait que ma mère était en train d'essayer de faire une recette. Il y a brûlé. Tu peux rater un truc et tu dis merde, c'est con, c'est un peu brûlé en dessous. Là, c'est du brûlé, quoi.
Comme quoi, il y a brûlé et brûlé. C'était la Madeleine du cinéaste Romain Goupil dans Les Bonnes Choses il y a quelques années. Alors, plongeons dans vos assiettes, dans la composition de vos cartes. Alain Nello, Thomas Bénaud, c'est donc une carte que vous composez dans votre restaurant Ardent au Loire Valley Lodge, composée autour de la forêt, puisque vous travaillez entre le potager et la forêt. C'est vraiment de là que vient votre inspiration?
Oui, de la forêt essentiellement maintenant. On a un potager et bientôt une ferme sur laquelle on s'appuie pour nourrir l'assiette. Mais le but, c'est quand le client s'assoit à table, dès les premiers amuse-bouches, le premier bouillon, on sert un bouillon à l'arrivée qui est infusé, c'est un bouillon de légumes, on récupère tous nos déchets de légumes, etc. On en fait un bouillon et on vient de l'infuser de pommes de pin brûlées, d'épines de Douglas.
L'huile de pin Douglas, oui.
Tout à fait. Et de l'ivèche. Et en fait, dès qu'il commence avec ce bouillon, bon, je pense qu'il est directement, et c'est ce qu'on nous dit, dans la forêt. Et après, on vient faire découvrir plein d'éléments de saison, du moment, de la forêt.
L'huile de pin Douglas a cette particularité qu'elle a un petit goût de pamplemousse.
Oui, tout à fait.
Donc là, vous pouvez l'utiliser aussi vraiment presque comme un agrume.
On va chercher les notes d'agrumes qui ne sont pas de chez nous, mais avec ces pains. Ouais. On a aussi l'épicéa qui a un goût de citron vert. On a le pain de Bordeaux qui va être un peu plus résineux en goût. Il y a les pains sylvestres où ça va être presque orange. Vraiment, en fait, les pains et les agrumes, Il y a un lien qui est, je sais pas comment, mais il y a un lien.
Et en plus, c'est une cuisine. C'est une cuisine saisonnière. En ce moment, par exemple, vous travaillez beaucoup avec les fleurs de genêt. On est au mois de mai. Les fleurs de genêt ont un petit goût de haricot vert. Vous faites un beurre fumé à la fleur de genêt et un plat qui est petit pois guanciale, fleur de genêt, huile de genêt et poivre de timut.
C'est ça.
Donc la fleur de genêt, elle est partout en ce moment.
Ouais.
Et on la met en cuisine.
Et on la met en cuisine parce que c'est très intéressant et beaucoup de gens connaissent le genêt mais ne savent pas que c'est comestible. Il n'y a que la fleur de comestible. Et on vient en faire un dressage très joli sur un montage de petits pois. Et le côté haricot vert cru du genêt et le petit pois, ça va ensemble. Quoi. Donc ça fait un plat très intéressant.
Mais ça veut dire, Thomas Benoît, que le matin vous vous levez et que vous vous dites « Tiens, je vais aller me balader dans ma forêt là ». Et je vais puiser mon inspiration du moment. Les arbres sont immuables, enfin, par les saisons. Ils perdent leurs feuilles peut-être, certains d'entre eux en tout cas. Mais ce qui marche en ce moment-là, au printemps, comment le déclinez-vous à l'année? C'est possible de le décliner à l'année?
On ne sert pas les mêmes éléments de la forêt sur l'année. Là, on est dans une période où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en forêt. Donc on est en train de lancer des huiles, des vinaigres, pour avoir des choses sur lesquelles s'appuyer. Je ne sais pas encore si on s'en servira cet hiver. On est fermé en plus une petite partie de l'hiver, donc c'est facile. Mais là, on a lancé des vinaigres d'ail des ours, des vinaigres de genêt, des huiles de genêt, des sirops de genêt pour le bar, pour servir vraiment la forêt dans l'assiette, dans les verres, dans le bar. Quand on arrive à l'hôtel, on rentre dans une forêt, on se déconnecte du monde et on veut vraiment que les gens restent dans cet univers et qu'ils s'y sentent pleinement.
Et vous avez aussi un plat signature? Il y en a plusieurs, je pense.
Qui ne vient pas de la forêt.
Il ne vient pas de la forêt, même s'il est au charbon noir, mais au charbon noir végétal. Entre fromage et dessert, c'est le Paris Sainte-Maure. Vous nous dites ce que c'est, le Paris Sainte-Maure?
Ben, le Sainte-Maure, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pour moi, en tout cas, le fromage emblématique de Touraine. Donc, c'est la bûche de chèvre cendrée avec la paille. Et on en fait le Paris Sainte-Maure, donc inspiré du Paris Brest, avec un peu de praliné pistache et un sorbet romarin et citron. Donc on n'est ni fromage ni dessert, on est vraiment entre les deux, c'est un hybride, c'est surprenant, c'est créatif je pense, et c'est un parti pris très puissant, mais 99% des gens, ça les marque, et il y a un petit pourcent de personnes où c'est un petit peu trop sucré ou trop salé pour moi, je ne sais pas trop où je suis, mais bon, on sait ce qu'on veut, et on marque les gens avec ça, et c'est top.
Cuisine gastronomique, étoilée?
Pas encore.
Pas encore. On espère bientôt. Charlet Brevard, vous, donc, votre truc, c'est le grill. On trouve du tarama au potiron, du pain pita au barbecue avec de l'huile d'olive, du tartare de Saint-Jacques fumé aux aiguilles de sapin. Vous en parliez, les aiguilles de sapin. Légumes racines fondues de poireaux. On peut continuer? On décline?
Alors, on est sur, la carte, elle a quand même basculé sur le printemps et même le début.
Ah, et vous aussi, vous êtes de saison.
Ah, il faut les suivre, c'est important. Là, on travaille beaucoup les asperges. Le tarama, maintenant, il est aux asperges. Donc, on le décline. On est passé sur les pizzetta aussi, qu'on décline en fonction des saisons. Là, on est sur le bruccio corse qui va servir de base et des épinards de saison. On fait aussi les artichauts, donc les cœurs d'artichauts qu'on fait fumer avec leur propre foin qui est séché et fermenté. Accompagné d'une glace au capre. Les cartes, elles sont vivantes, elles sont mouvantes, et puis on aime bien expérimenter les choses. Ça fait un an que je suis arrivé à la tête du restaurant, des cuisines du restaurant, et on va revivre une nouvelle année en expérimentant encore toujours.
Oui, et puis vous faites aussi des cocktails qui sont rattachés au feu. Vous continuez de les faire, des cocktails qui sont rattachés au feu?
On continue de les faire, ouais. On a trois cocktails création. On va chercher les notes de fumée, de tourbe, en cherchant avec les alcools ou avec des parfums, ou avec des épices aussi. Des épices qui vont être fumées, comme les piments mexicains.
Un Bloody Mary qui est au piment fumé CRS, voilà. Ou une bière blonde qui s'appelle Smoke on the Water de la brasserie Grand Paris, aux arômes de malt fumé et de pain toasté. On y revient toujours. Alors, vous n'êtes pas les seuls, tous les deux, quand même, à vous intéresser à la cuisine au feu. Dans votre jeune âge, à tous les deux, il se trouve que On en a vu d'autres quand même. Par exemple, dans le Jura, au cœur du Jura, un restaurant a ouvert en février 2024 qui a pour nom Autour de l'âtre, tenu par le jeune chef Gabriel Guinbeau. La cheminée y tient une place centrale pour faire des cuissons au feu de bois, pour et devant les convives attablés. C'est à Grusse et je mettrai le lien sur notre page. Et puis à Paris, dans le 5e arrondissement, a été inauguré au mois de mars 2024 le restaurant Lava. Lava comme la lave. Tout premier restaurant dans le 5e arrondissement de Paris du jeune chef Wilfried Romain qu'on a vu dans la saison 13 de Top Chef. Wilfried Romain est avec nous par téléphone. Bonjour Wilfried Romain.
Bonjour, vous allez bien ?
Merci, ça va très bien. C'est une mode cette cuisson ardente ? Qu'est-ce qui vous prend tous, à vous les jeunes chefs, de faire de la cuisine au feu ? Alors vous c'est la lave carrément, hein ? Vous décrivez sur votre compte Instagram comme un chef en éruption.
Il paraît. On cuisine pas encore à la lave, peut-être un jour. On va commencer déjà par bien cuire à la braise. Mais très chouette. C'est marrant, oui, il y a une espèce de mode autour de ça. J'ai eu la chance d'être piqué par cette cuisine à la braise quand je travaillais au Chili. Ils utilisent ça principalement en Patagonie. Et on travaillait dans un restaurant où on cuisinait tout à la braise.
Et de fait, le feu et la braise occupent une place centrale dans vos cuisines de lava ?
Oui, exactement. Bah, comme je viens de dire, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Je me suis un peu nourri de tout ça et j'espère que ça se ressent dans cette cuisine qu'on propose à Lava. Et je suis aussi passionné de volcans, donc on voulait retransmettre mon amour, bah, du coup, pour les voyages et pour les volcans au travers de ce restaurant.
Alors, comment on traduit le volcan en cuisine ? Donnez-nous un plat, exemple.
Voyons, on a un plat qui s'appelle le black ceviche, qui est donc c'est un ceviche autour du mulet. Du mulet de ligne, le litchi des tigrés, on l'aromatise, j'ai envie de dire, avec de la crème de sésame noire, dans laquelle il y a déjà de l'ail, du gingembre, du citron vert, de la coriandre et un petit peu de piment. Et donc, visuellement, on a un plat qui est tout noir. Donc, ça perturbe un petit peu le client quand on pose l'assiette. Et ça lui crée généralement, normalement, j'espère, une belle surprise.
C'est aussi le lieu jaune Ikejime, qui est grillé au miso, nappé d'une sauce au curry vert, servi sur un lit de choux pointu et d'algues de kombu. On voit bien que vous vous inspirez d'un peu partout.
Exactement, vous connaissez toute la carte, bravo.
On peut en regarder quand même.
Vous connaissez toute la carte. Ouais, ça fait plaisir. Après, il y a aussi quelque chose à bien prendre en compte dans cette cuisson à la braise, c'est de pas aller trop loin, de pas avoir trop de goût de fumée, trop de goût cuisson et tout. Il y a quand même un jeu d'équilibriste à respecter, et en rapportant, vous savez, des notes de fraîcheur et d'acidité, et en s'amusant.
Et ben là, vous retrouvez ce que nous ont dit nos deux invités de l'émission principaux, parce qu'ils nous disaient qu'il fallait effectivement un jeu d'équilibre pour avoir ce goût de fumée, mais garder l'émotion, que ça reste rassembleur. Il n'y a pas de science, il faut sentir la flamme et la voir en soi. Manifestement, on a bien compris qu'en tous les cas, tous les trois, vous l'avez. Un grand merci à vous, déjà, Wilfried Romain, d'avoir témoigné rapidement de ce que vous faites à Lava, dans le 5e arrondissement de Paris. Un grand merci à nos deux invités, Charles Brevard du restaurant Ardent Paris, Rue Richer dans le 9e arrondissement. Et un très grand merci à Thomas Bénaud qui a fait le trajet jusqu'à chez nous, chef du restaurant gastronomique absolument délicieux, Ardent, au domaine Loire, Vallée Lodge, en Touraine, à côté de Saint-Pierre-des-Corps. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Je tiens à préciser que toutes les adresses de ces restaurants seront sur notre page sur franceculture.fr, ainsi que les références littéraires. Avec Siam Boutata à la préparation, Colin Gruel à la réalisation, Florent Bujon à la prise de son, nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.